notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Demandons à l'Esprit Saint, le Père des pauvres, d'illuminer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire. Nous allons continuer, si vous voulez, cette topique sur la personne. Je vous serai assez bref, du reste, parce que vous pouvez la consulter dans le livre L'être, le second tome. Je vais voir tout de suite la position d'Octave. C'est quand même très important, après avoir essayé de préciser la position de saint Thomas au point de vue théologique. Je crois que nous avons vu suffisamment. Je vois tout de suite Octave. On pourrait voir Don Scott. Don Scott est l'intermédiaire, vous savez bien, entre saint Thomas et Octave, il y a Don Scott. Et alors, il faut bien comprendre que Don Scott est le retour à Henri de Gaulle. Il faut le comprendre historiquement. Et il faut comprendre pourquoi il y a eu ce retour à Henri de Gaulle. C'est parce que saint Thomas ayant été condamné par la Sorbonne, ayant eu ce lien avec le païen, Aristote, on retourne à Avicenne. C'est très curieux, c'est très important, je crois, historiquement, ça. Parce que ça fait comprendre comment le néoplatonisme l'a emporté sur l'aristotélisme. Au fond, c'est la condamnation de la Sorbonne qui a joué ce rôle qui est important. C'est très curieux, des petites choses historiques comme ça. C'est pas l'Église, hein, l'Église, au sens, c'est pas Rome, quoi. Mais c'est la condamnation de la Sorbonne qui a joué ce rôle très important et qui fait que Henri de Gand, alors, et je veux dire Bon Scott, retourne Henri de Gand. Henri de Gand, c'est une position du néoplatonisme. Henri de Gand est un théologien, c'est Louvain, Henri de Gand. C'est le... pas les religieux, parce que Louvain a toujours été en opposition vis-à-vis du point de vue des religieux. La querelle entre le point de vue ecclésiastique, diocésain, non régulier, régulier, ça existe au Moyen-Âge, hein. Faut pas l'oublier, c'est assez ancien, c'est bien enraciné dans l'Église. Alors, ça rejoint aujourd'hui. C'est exactement les mêmes querelles, hein. On retrouve exactement les mêmes choses. Il faut les savoir, il faut les comprendre, parce qu'il faut voir ce que ça veut dire. Eh bien, c'est très curieux que Henri de Gand, c'est Louvain, c'est donc le point de vue séculier. Don Scott va revenir Henri de Gand, sans quitter cependant saint Thomas. Don Scott est très difficile à comprendre. C'est un auteur que je trouve le plus complexe et le plus difficile à comprendre. C'est pour ça que je ne veux pas le voir avec vous. C'est l'intermédiaire. Mais c'est un intermédiaire, c'est une chose instable dans ce cas. Ce n'est pas une position franche. Il y a une position franche, Henri de Gand. Ça, c'est du néoplatonisme le plus extraordinaire, le plus merveilleux. Et c'est beau. Si vous avez le temps, une fois, de plonger un tout petit peu dans Henri de Gand, ça vaut la peine, parce que c'est net. C'est une position, vous voyez, c'est la primauté des intentionnels. Qui ne viennent pas des sens. Enfin, toute la querelle vient toujours de là, il ne faut pas l'oublier, dès qu'on essaie de comprendre un peu les positions philosophiques. C'est que l'aristotélisme dit que tout provient de l'expérience et des sciences sensibles. Rien ne pénètre dans le nous sans que c'est déjà passé par les sens. Ça, c'est une très grosse difficulté d'expliquer comment les réalités sensibles physiques peuvent être quelque chose qui vient déterminer le nous qui est spirituel. Donc, vous voyez, c'est toute la distinction entre les catégories
Ici, le conduit du « est », ce qui est. Or, il y a tout le temps la passion. C'est ça qui est si important, le jugement d'existence. Parce que c'est le jugement d'existence qui peut seul donner la clé. En dehors de ça, on ne sera ou néoplatonicien ou aristotélicien, mais on ne comprendra pas vraiment le problème. Parce que, pour Aristote, tout provient des sens. Et saint Thomas le répète, hein, tout ce qui passe, tout ce qui vient à l'intelligence, donc l'intelligence, est passé par le sensible. Et tout, c'est le sensible qui est la source, à cause du conditionnement de notre intelligence humaine. Notre intelligence humaine est une intelligence incarnée qui se sert des sens pour arriver à progresser. Et donc, toute donnée intelligible, toutes les données intelligibles sont passées par le sensible des sens. Alors, comment se fait ce passage? Vous comprenez bien. Les sens donnent le contact avec une détermination sensible, des catégories. Les catégories, c'est vraiment la détermination de tout ce que nous voyons et constatons dans le monde physique. Mais il y a un dépassement parce que l'intelligence saisit au-delà du sensible, au-delà des catégories, et à tout d'être. Donc l'intelligence se nourrit de l'acte d'être à travers les sensibles. Et c'est pour ça qu'il y a une possibilité pour l'intelligence de saisir les principes. C'est par là que nous dépassons les déterminations. Il faut saisir ça, arriver à saisir ce point de vue-là. Alors, si on comprend mal Aristote, nous allons voir tout de suite avec Hoppin, hein, c'est pour ça que c'est intéressant la position d'Hoppin. Si on comprend mal Aristote, on dira que l'intelligence est conditionnée par le sensible d'une manière telle qu'en réalité elle est déterminée par le sensible. Et donc, l'intelligence n'arrive pas à découvrir quelque chose de séparé qui ne peut pas arriver à atteindre Dieu. Il prend bien les mains. D'où Henri Dugan va dire, c'est très simple, le nous a fait intentionner ses intentions intelligibles qui sont humaines. Et donc, il ne passe pas par les sensibles. Nous avons des sens, des sensations, mais intelligibles. Vous voyez, mais aucun sensible. La connaissance sensible n'est pas source de nos intentionnés intelligibles. Nos intentionnels intelligibles, les intentions intelligibles, sont données directement par le verbe qui éclaire tout homme venant de ce monde. L'illuminisme de Saint-Augustin, vous voyez, il y a un lien entre Saint-Augustin et toute cette position d'Henri Dugan. L'illuminisme de Saint-Augustin, c'est bien ça, nous avons une source intérieure. Nous avons une source intérieure qui illumine notre intelligence, au-delà de tout ce qui nous est donné par l'expérience. Dans saint Thomas, à la suite d'Aristote, c'est l'intellect agent qui illumine nos images. Et les images, grâce à l'intellect agent, permettent le point de vue de l'intelligible. Vous voyez, c'est beaucoup plus complexe. La position de saint Augustin est simple. Et c'est toujours les positions simples qui passent plus facilement, vous comprenez. La position d'Aristote est beaucoup plus complexe. Poser l'intellect agent, c'est poser en nous une source d'illumination par rapport à nos fantasmes. La position d'Aristote a l'avantage de sauvegarder l'autonomie de la personne. Tandis qu'en réalité, la position de Saint-Augustin et la position d'Henri Dugan ne sauvegardent pas l'autonomie de la personne. On est comme des instruments. Parce qu'on est illuminé immédiatement par Dieu. On reçoit directement ça. Vous voyez, c'est comme, au fond, confusion entre l'homme naturel et l'homme surnaturel. Au fond, la confusion entre les deux. On ne voit pas assez que dans l'homme naturel, Dieu veut faire des personnes qui sont des causes secondes. Tandis qu'au contraire, dans l'ordre surnaturel, ce qu'il y a de plus grand, c'est d'être instrument de Dieu. Et c'est par là que toute la difficulté de notre vie spirituelle, hein, c'est de passer du régime où on est autonome au régime instrument.
Et c'est très difficile. Alors, où on tombe dans l'humanisme, où on tombe dans une espèce d'attitude purement moralisante. Ou alors, on est cautionné. Je ne sais pas si vous voyez bien, et ça repose sur ces deux grandes positions, et je crois que ces deux grandes positions sont très fondamentales, la position d'Aristote, où du sensible on s'appelle intelligible grâce à l'intellect agent, ou au contraire, la position augustinienne chez Henri de Gand, qui est un petit peu durci, les intentions intelligibles sont données directement. Alors les sensations, c'est très bien, mais c'est extérieur. C'est quelque chose d'extrinsèque. On demeure dans l'extrinsèque. Il y a le domaine du spirituel, le domaine du sensible. Et les deux domaines sont séparés. Dans l'aristotélisme, les deux domaines sont distingués, et dans Henri de Gand, les deux domaines sont séparés. Je me souviens, parce que c'était à Fribourg, les luttes constantes avec la position du père Geiger, comme étant une question dont il doit comprendre les choses, pas. Alors, je me souviens, le père Geiger disant un beau jour comme ça, mais c'était très curieux, c'était. Rencontrer, c'est un moment où il va se fatiguer, c'est impossible de dire que tout passe par le sens. C'est impossible. Nécessairement, il y a une illumination intérieure qui nous donne nos intentions intelligentes. Vous savez que j'étais plutôt tendance aristotélicienne, alors il disait ça, lui, en néoplatonicien. En disant que non, c'est le néoplatonisme qui peut seul sauvegarder la position spirituelle. Le néoplatonisme donne toujours l'impression d'être beaucoup plus spirituel que l'aristotélisme. C'est bien évident, ça donne l'impression d'être beaucoup plus spirituel, puisqu'on est immédiatement illuminé par Dieu. C'est bien plus spirituel. Et pourtant, c'est beaucoup moins spirituel. C'est ça qui est très curieux. Parce qu'on ne découvre pas l'autonomie d'intelligence. Et c'est cette autonomie d'intelligence qu'on doit découvrir. L'intelligence, bien que dépendante des sens, dans cette dépendance acceptée, découvre sa véritable autonomie. Et on pourrait faire là une parallélisme avec la théologie de la libération. Celui qui n'accepte pas la dépendance ne sera jamais totalement libre. Celui qui accepte les vraies dépendances peut découvrir la vraie liberté. C'est tout le temps ça, c'est toujours la même position. La position classique, si vous voulez, de ce qu'on a appelé en philosophie l'occasionnalisme. Ceux qui refusent les causes secondes. Ceux qui refusent qu'il y a dans l'écriture une autonomie réelle, donc sans cause seconde. Alors, c'est l'occasionnalisme. L'occasionnalisme, au point de vue de l'intelligence, c'est celui-là. C'est le néoplatonisme. Alors, Don Stock va faire une espèce de mélange entre Henri de Gand et Thomas d'Aquin. Alors que Thomas d'Aquin et Henri de Gand représentent vraiment deux positions très nettes et très très distinctes, très significatives, l'une qui s'appuie sur Aristote, en le purifiant à la manière de saint Thomas, et l'autre sur le néoplatonisme. Et Don Stock fait une espèce d'équilibre entre les deux. Une mixture. Dans ce cas, c'est la mixture. C'est ça qui est si difficile à bien comprendre. Alors, Occam, au contraire, est une position très significative et qui aura beaucoup plus d'influence que dans ce cas, je crois. Dans sa somme de logique traitant de la supposition des termes, Occam donne cette définition de la personne. Parce que c'est ça qui nous intéresse ici. Alors comprenez toujours qu'Occam, au niveau proprement théologique, c'est le grand tournant de toute la pensée moderne. Je crois qu'on peut le dire. Il est antérieur à Descartes, au point de vue de ce tournant. Et au fond, c'est lui qui nous fait comprendre cela. Donne cette définition de la personne, une substance individuelle, complète, ne dépendant pas d'un autre suppôt. Matériellement, c'est pas si mal. On pourrait dire pour Occam ce que Gilson disait de Descartes. Descartes garde les termes scolastiques en donnant au terme scolastique une nouvelle signification. Je crois que c'est déjà vrai de Octave. Il garde les termes scolastiques une substance individuelle. Qu'est-ce que c'est que cette substance individuelle ? Complète. Substance individuelle complète, voyez, le mot complète vient s'ajouter à individuel. Est-ce qu'une substance individuelle n'est pas toujours complète ? On se demande, donc si on éprouve le besoin d'être complète, ça prouve que ce n'est plus déjà une substance individuelle. Alors on est complète, c'est le tout. Et ça, c'est le tout, simplement. Hein. Complète. Ne dépendant pas d'un autre support. Donc, étant soi-même subsistant. Ayant son autonomie. Ailleurs, il la définit encore comme un suppôt intellectuel. Vous voyez, Descartes, la substance pensante. C'est dit, le suppôt intellectuel. Et c'est dit chez Descartes déjà, la substance pensante. La substance pensante, c'est ça qui définit la personne. C'est le suppôt intellectuel. Ou une nature intellectuelle complète qui n'a pas pour suppôt un autre. Ni n'est destiné à réaliser avec un autre, à titre de partie, une unité essentielle. Donc c'est un nounoum per se. C'est ça le propre de la substance. Vous voyez qu'on dit le propre de la personne. Vous voyez qu'on définit la personne par la complète, le point de vue de la totalité, substance individuelle complète, et son indépendance. Ne dépendant pas d'un autre. C'est donc cet unum per se. C'est quelque chose qui a une unité pour lui-même. Il ne faut donc pas confondre personne et suppôt, qui diffèrent comme le supérieur et l'inférieur. C'est pas qu'un diffère. Hein? Donc, il ne faut pas confondre personne et suppôt. Je définis la personne par le suppôt. Je définis la personne par le suppôt. Mais la personne n'est pas le suppôt. C'est bien évident. Donc, la personne et le suppôt diffèrent comme le supérieur dans l'ordre des supposés.
Dans l'ordre des suppôts. C'est-à-dire que le suppôt prend une importance énorme dans la perspective d'Occam, le suppôt prend une importance énorme. Au fond, le suppôt, qui est un terme logique, c'est le sujet, tout politique, ce qui est capable de porter les autres, donc c'est de l'ordre du sujet et du sujet logique, va remplacer le terme substance. Toujours la perspective de la métaphysique qui retombe sur la logique. Hein. Alors, on va voir dans les suppôts du plus et du moins. Et le suppôt premier, c'est la personne. Entre personne et suppôt, il y a différents degrés. Mais pas autre chose. Voyez bien, définition logique de la personne. Le suppôt est un terme logique, et je définis la personne par le point de vue du suppôt. Et tout est joué, ça vous avez compris ça. Hein. Vous avez compris que, de fait, la métaphysique de la personne disparaît, et vous n'avez plus que la logique de la personne. Il ne faut donc pas confondre personne et suppôt qui diffèrent comme le supérieur et l'inférieur. Le suppôt étant un genre dont la personne est une espèce. Très simple. Hein. Occam distingue deux acceptions du terme suppôt. Pour les logiciens, il est synonyme d'individu et de singulier, et désigne soit ce qui est numériquement une réalité et non plusieurs, en ce sens n'importe quel universel peut être dit individu. Égal, hein? Vous voyez bien, vous voyez comme c'est très curieux, hein? Cette espèce de universel et l'individu. Donc Hegel se désire que l'universel soit l'individu. Et vous trouvez ça dans le cadre. De faire de l'universel un individu. Et c'est dit textuellement. En ce sens, n'importe quel universel peut être dit individu. Soit la réalité existante hors de l'âme. Vous voyez bien. Il prend les deux. Occam distingue deux acceptions du suppôt. Il le dit. Au point de vue distinction scolastique. Au point de vue distinction scolastique, évidemment, il y a une différence entre la métaphysique et la logique. C'est sûr, et Occam maintient cette distinction au point de vue des noms. Mais est-ce qu'il la distingue en réalité ? Toute la question est là.
Oui. Alors, donc, on a deux acceptions du terme suppos. Pour les logiciens, il est synonyme d'individu et de singulier. Soit la réalité existant hors de l'âme, qui est une et non plusieurs, et n'est pas le signe de quelque chose. En ce sens, toute substance est un individu. Toute substance est un individu. Alors, vous voyez, ça va très loin. Toute substance est un individu. La substance n'est donc plus un principe. Elle est un peu. Et tout est là. Quand on a compris ça, on comprend qu'il il n'y a plus saisi de principe. Il n'y a plus de saisi que d'individu. Alors, vous avez l'individu existant et vous avez l'individu logique. Et tout va jouer au niveau de l'individu, donc au niveau du suppos. Vous avez un suppos logique et vous avez un suppos métaphysique. Deux fonctions. Mais c'est la même réalité. Soit la réalité existante hors de l'âme, qui est une et non plusieurs, et n'est pas le signe de quelque chose. En ce sens, toute substance est un individu. Soit un signe propre à une chose. Ou terme distinct, autrement dit, un nom propre, Socrate ou Platon, ou un pronom démonstratif, ceci est un homme, ceci désignant Socrate, ou encore un pronom démonstratif pris avec un terme commun, cet homme, un suppos, hein, tout ce qui est impliqué dans le point de vue suppos. Mais pour les théologiens, suppos et individus ne sont pas convertibles, car pour eux, le suppos n'est que substance, alors que l'accident est individu. En ce sens, le suppos est un être complet, incommunicable par identité, qui n'est apte à inhérer à rien, et n'est soutenu par aucun sujet. Je ne sais pas si comme tout ça vient saisir. Hein. Vous voyez la complexité, ça se dirait. N'oubliez jamais que Occam, c'est le docteur subtiliste. Hein. C'est la subtilité la plus grande qui soit. Et c'est comme ça qu'on l'a nommé. Hein. Je me souviens très bien du cours de Vignot, quand il voyait simplement, cet homme, c'est beaucoup trop simple. Occam, au moins, c'est complexe. Parce que vous aviez dans Occam, justement, cette subtilité, prenez tout simplement, hein, la manière dont il distingue tous les suppos. Et en réalité, quand vous essayez de comprendre un tout petit peu ce que ça veut dire, hein, c'est la réalité qu'il faut regarder, et vous apercevez que, de fait, c'est le point de vue du logique qui commande tout. Et c'est très vrai que la logique est beaucoup plus subtile que la métaphysique. La métaphysique, c'est assez gros au point de vue logique par rapport à la logique. Hein. C'est vrai, vous avez la logique, c'est l'être de raison, c'est l'universel, c'est quelque chose de bien plus subtil à première vue. Et la métaphysique, c'est la réalité existante. C'est gros. L'être. L'être est existant hors de l'âme. C'est plus massif que l'être de raison. C'est bien plus subtil. Parce que l'être de raison, c'est justement ce que l'intelligence a produit. Notons enfin que pour Occam, dans les créatures, la nature créée et le suppos ne font qu'un. Bien que la nature créée ne soit suppos que de façon contingente. C'est pourquoi, bien que le terme suppos connote quelque chose qui n'est pas identique à la nature créée, néanmoins, la nature elle-même, tant qu'elle est suppos, et n'est pas assumée par un autre suppos réellement distinct, ne diffère pas plus du suppos que d'elle-même. On peut donc dire, et même insiste Occam, on doit affirmer absolument que si aucun saint catégorien n'y fait obstacle, l'humanité est suppos et l'homme est humanité. En affirmant cela, Occam prétend suivre et définir la pensée d'Aristote. C'est ça qui est plus curieux. En réalité, il utilise la philosophie d'Aristote d'une manière tout autre que saint Thomas, enfin, deux utilisations totalement différentes de la pensée d'Aristote. Puisque Occam, c'est le retour à Aristote, contre Don Scott et contre Henri de Gaulle. Et donc, d'une certaine manière, faisant œuvre parallèle à saint Thomas. Utilisation parallèle d'Aristote par rapport à saint Thomas. En cas, a été condamné par l'Église, saint Thomas ne l'a jamais été, seulement par Paris. Donc, c'est pas tout à fait du même ordre. En réalité, il utilise la philosophie d'Aristote d'une manière tout autre que celle de saint Thomas. Nous avons déjà eu l'occasion donc de le constater, mais cela est particulièrement sensible en ce qui concerne la personne. Celle-ci est définie génériquement par le suppôt, spécifiquement par intellectuel. Il s'agit bien d'une définition logique. C'est ça, je crois qu'il faut essayer de saisir, hein, de voir que, de fait, chez Occam, la personne se définit par le suppôt. Et vous avez le point de vue générique et le point de vue spécifique. Le point de vue spécifique de la personne intellectuelle. Genre et différence spécifique. Genre et différence spécifique, c'est bien le point de vue logique. Quel est le genre qui définit la personne? C'est le suppôt. Vous voyez la différence avec Boël. Le passage de la substance au suppôt. Je crois que tout est là. Le passage de la substance au suppôt. Boël définit la personne par la substance. Occam définit la personne par le suppôt. Alors, la différence spécifique, rationnelle, intellectuelle. C'est bien, c'est pas mal d'avoir un intellectuel. Hein. C'est presque mieux que rationnel. Hein. C'est presque mieux. Mais intellectuel, est-ce que c'est encore logique spécifique? Alors, c'est ça qui est très beau, très curieux, c'est que les mots semblent plus près de la réalité, et en réalité, on est devant une différence spécifique, logique. Et donc, on a une définition logique de la personne. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir d'Occam. La définition logique de la personne qui fait que c'est le suppôt intellectuel. C'est le suppôt, il ne dit pas d'une nature intellectuelle, c'est le suppôt intellectuel. Dans l'ordre du suppôt, donc dans l'ordre logique de ce qui est capable de supporter, supponite, le suppôt c'est supponite. Donc, comprenez le terme suppôt d'un point de vue logique. Ce qui est capable de recevoir une attribution. Alors, ce qui est capable de recevoir une attribution, supponi, substare, vous voyez quelque chose de semblable avec la substance, c'est évident. C'est le suppôt. Mais alors, ce suppôt qui joue dans l'ordre de l'intellectuel, dans l'ordre intellectuel. Voilà la personne. Et donc, ce qui est capable de recevoir des attributions dans l'ordre spirituel. Vous avez la personne au niveau logique. Alors, pour bien comprendre ça, il faut saisir que chez Occam, il n'y a plus de saisie de principe, il n'y a plus de saisie de nature, parce que la nature est un principe. La nature, c'est simplement l'ensemble des accidents liés à un suppôt. Vous avez donc un suppôt qui reçoit toute une série d'accidents. Qu'est-ce que c'est que l'homme? L'homme, c'est un suppôt qui a un accident particulier, c'est d'être intellectuel. C'est ça la personne humaine. Vous définissez la personne par quelque chose d'accidentel. Différence spécifique, alors c'est pas accidentel au sens accident ou en temps habituellement, mais accidentel parce que ça vient s'ajouter. Et comme on est dans l'ordre logique, et qu'il n'y a plus de principe, la différence spécifique est tout simplement un accident propre. Et donc si c'est un accident propre, vous définissez tout simplement la personne par quelque chose qui vient s'ajouter. L'individu, c'est l'ensemble d'accidents qui caractérise un suppôt. Donc vous n'avez plus aucun principe. Et la personne se décrit comme le reste. Donc ça, je crois que c'est très important de comprendre ce nivellement par le point de vue logique qu'opère Occam par rapport à la personne. Un tout petit mot sur Suarez. Hein. Parce que c'est intéressant de voir le passage d'Occam à Suarez, au point de vue proprement philosophique. Mais au niveau de la personne, c'est très important, je crois, de bien saisir cette perte du sens métaphysique au niveau de la personne. Dans la Disputatio 34, où il traite, ça c'est Disputatio métaphysique chez Suarez, où il traite de la substance première, ou suppo, et de sa distinction d'avec la nature. Suarez compare la personne au suppo et à la substance première. La personne est identique à la substance première ou au suppo. Vous voyez bien l'influence d'Occam. Et détermine seulement cette ratio à la nature intellectuelle ou rationnelle. Exactement la même définition. Vous voyez, comme réaction contre Occam, c'est bien. On veut réagir contre quelqu'un, on se laisse manger par cette personne. C'est exactement ce que fait Suarez. Il réagit contre Occam, il ne faut pas l'oublier. Il est pleinement d'église, Suarez, par la volonté. Alors il est pleinement d'église, dans l'obéissance volontaire, il veut être d'église. Il veut réagir contre Occam, et pratiquement, il tombe dans le piège d'Occam. Alors c'est très très important, c'est à partir de Suarez que va se donner la métaphysique chrétienne, la métaphysique thomiste, ne l'oubliez pas au point de vue historique. C'est Suarez qui est le premier à faire une métaphysique thomiste. Et dans cette métaphysique thomiste, vous voyez ce que c'est que la personne. La personne n'est plus du tout vue au niveau métaphysique, mais vue au point de vue logique, identique à la substance première et au suppo. Substance première, vous voyez bien ce que c'est la substance première sujet, catégorie, donc c'est le niveau des catégories, ou au suppo, alors c'est encore mieux, il y a la dégringolade de la substance première au suppo, et détermine seulement cette ratio à la nature intellectuelle et rationnelle. La différence spécifique, c'est être intelligible, intellectuel. Ou rationnel. C'est pourquoi on dit fréquemment que la personne et le suppo diffèrent comme matériellement du côté de la nature. C'est extraordinaire. C'est toujours très intéressant de regarder Suarez. Hein? C'est toujours très, très éclairant. C'est pourquoi on dit fréquemment que la personne et le suppo diffèrent comme matériellement du côté de la nature, mais non pas formellement, dans la raison et le mode de subsistance incommunicable. C'est extraordinaire. Donc l'esprit devient matériel. La distinction spécifique est considérée comme matérielle. Alors vous avez une mélasse complète. Hein. Je ne cherchez pas à comprendre, parce que c'est inintelligible. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Vous voyez, il faut essayer de comprendre pour se heurter contre un mur, quoi. Alors, on se casse la tête plusieurs fois. Et alors, une fois qu'on s'est cassé la tête plusieurs fois, on dit, attends, je vois ce que c'est qu'un scolastique décadent. À partir de Suarez, c'est le scolastique décadent. Et je vous dis, toute la métaphysique thomiste, dithomiste, jusqu'au père de finances, dépend de Suarez. Alors, on comprend. Moi, je comprends très bien la réaction vitale en face de la phénoménologie quand on est scolastique dans la scolastique décadente. On dit enfin quelque chose qui revient à l'expérience et qui nous met en face de quelque chose de vécu. Parce que quand on est en face de cette définition de la personne, vous voyez, il faut la comprendre. Hein. C'est pourquoi on définit fréquemment, on dit fréquemment que personne et le suppo diffèrent comme matériellement du côté de la nature, mais non formellement dans la raison et le mode subsistant. Et le mode de subsistance incommunicable. Donc tous les deux, formellement, sont la même chose, le mode de subsistance intelligente. C'est ça le point de vue premier. Une rationnée est modo incommunicabilité subsistendi. Cela est vrai, remarque Suarez, de la raison générale de la substance première et du suppôt. Cependant, parce que la nature intellectuelle a une subsistance qui lui est proportionnée et d'un ordre plus élevé que celle des natures inférieures, on peut dire que la personne diffère du suppôt même dans la raison de subsistance. Donc il va sauvegarder le primat de l'esprit. Mais il faut voir comment. C'est ça qui est intéressant. Il est parti d'une chose commune. On dit communément ça. Et ce communément, vous voyez, reste très proche d'Occam. Alors la réaction de Suarez en face d'Occam. Cela est vrai, remarque Suarez, de la raison générale de la substance première et du suppôt. Cependant, parce que la nature intellectuelle a une subsistance qui lui est proportionnée, je sauve l'esprit par sa subsistance proportionnée. Je ne sauve pas l'esprit par sa finalité. Nous dirions que l'esprit a une finalité propre. C'est ça qui est le point de vue. Parce que découvrir la subsistance propre de l'esprit, c'est très très difficile. Ça. On ne la découvre pas immédiatement. Tandis que pour lui, c'est ça qui est intéressant. Parce que, donc, c'est le point de vue antitatif. Ce n'est pas le point de vue de la finalité. Parce que la nature intellectuelle a une subsistance qui lui est proportionnée et d'un ordre plus élevé que celle des natures inférieures, on peut dire que la personne diffère du suppôt même dans la raison de subsistance, une rationnée subsistendi, comme l'espèce la plus digne diffère du genre commun. Aucun. L'espèce la plus digne diffère du genre commun. Donc nous retrouvons exactement le même chef d'Occam. C'est par le point de vue de la différence spécifique et du genre qu'on va tout simplement montrer que la personne a quelque chose de plus digne. Ce n'est plus par la finalité. Et je crois que tout est là. Alors à partir de là, on ne comprend plus la métaphysique de l'acte. On regarde tout au point de vue de la manière de subsister. Comme l'espèce la plus digne diffère du genre commun. Non que la raison propre du genre et de l'espèce se trouve en eux, mais la raison proportionnelle, car la nature intellectuelle, si elle est purement et parfaitement intellectuelle, a une subsistance absolument immatérielle. Mais si elle est rationnelle et en même temps sensible et corporelle, où elle possède aussi une subsistance spirituelle, ou du moins une subsistance composée d'une certaine réalité matérielle et spirituelle. C'est donc de cette manière que la personne diffère du suppôt en général. Ça, il faut le comprendre. Intéressant, c'est très intéressant, ce texte est très intéressant à voir. Parce qu'à la fois, on voit la réaction contre Occam, et en même temps, on voit qu'on réagit de la manière qu'on garde le schéma occamien. C'est-à-dire, on reste dans la logique. Je ne reviens pas à la métaphysique pour découvrir ce que c'est que la personne. Je reste au niveau logique pour définir ce que c'est que la personne, en simplement voyant que c'est une espèce supérieure. Et donc, si une espèce supérieure, c'est son mode de subsister qui caractérise la personne. Vous voyez son mode de subsister. Essayez de réfléchir. Quel est votre mode de subsister plus particulier par rapport aux réalités qui sont physiques? C'est très très difficile parce que vous ne voyez pas comment l'esprit peut se séparer de la matière au point de vue philosophique. Je n'ai aucune expérience de mon âme séparée. Tandis que pour Suarez, au fond, c'est ça qui fait la différence de la personne. C'est que l'âme peut subsister indépendamment de la matière. Mais l'âme peut subsister indépendamment de la matière. Je le dis au point de vue de la foi, ou je le dis au point de vue philosophique, dans une vision de sagesse. Je dis l'âme peut subsister en dehors, mais ce n'est pas ça qui définit la personne. La personne doit se définir pour elle-même, à partir de la substance rationnelle, donc à partir de la finalité. Or ici, il veut le définir au niveau de son modus subsistendi, in ratione subsistendi. On peut dire que Suarez cherche à dépasser la perspective purement logique, qui était celle d'Occam, en découvrant dans la ratio subsistendi de la nature spirituelle quelque chose de propre à la personne, qui la distingue du suppôt. Cela lui permet de définir la personne sans regarder explicitement la nature spirituelle, et en cela même, il demeure sous l'influence d'Occam. Il veut se séparer d'Occam, et en réalité, il reste dans la perspective d'Occam, qui définit la personne tout simplement par le point de vue du genre et de la différence spécifique. Donc on reste dans une perspective logique. Vous voyez ? Ben c'est subtil, hein, c'est évident, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Relisez ce texte, hein. Relisez-le lentement, mais relisez ce texte de Suarez, qui essaie de comprendre ce qui va caractériser la personne, c'est une ratio subsistante. La ratio subsistante de la nature spirituelle. La nature spirituelle a quelque chose d'unique. Elle peut subsister indépendamment de la nature. Ça, j'en ai pas l'expérience. Alors, en théologie, très bien. Moi, je veux bien. En théologie, en philosophie. Si je ne définis la personne que par la capacité de l'âme spirituelle de subsister indépendamment de la matière, vous comprenez très bien que tout ça demeure comme quelque chose qui est une conclusion, pas plus. Je ne peux pas baser ma philosophie de la personne là-dessus. Donc, en réalité, je reviens à la perspective occamienne du suppôt et de la différence spécifique supérieure. Et je crois que c'est ça qui est important à saisir. Alors, c'est ça qui fait que la scolastique suarezienne sera incapable de répondre à tous les forts modernes de découvrir la personne à partir de la conscience. On verra la fois prochaine. Je voulais vous montrer au moins la décadence de la scolastique au niveau de la personne. Parce que c'est peut-être là où on la saisit le mieux. C'est à l'égard de la personne qu'on saisit le mieux comment la scolastique va de fait se réfugier dans la logique sans revenir à la perspective proprement métaphysique. Alors, Occam, Suarez.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, fruit de vos entrailles, est béni.